de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Pour une mélodie en sous-sol aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux minéraux, à leurs effets et à leurs usages pour notre santé. Si l'or et le cuivre sont connus depuis l'Antiquité pour leurs vertus thérapeutiques, qu'en est-il des autres? Cristaux de quartz, jade, améthyste ou cinabre qui nous fascinent tant. Au-delà de leur beauté, quels usages symboliques, cosmétiques, spirituels ou thérapeutiques les hommes et les femmes en ont-ils fait? Comment les sciences modernes, médicales, chimie, cristallographique ont-elles fait évoluer nos connaissances et éclairer aussi les dangers sanitaires de l'amiante, par exemple. Du meilleur, de la lithothérapie au pire des métaux lourds, regard croisé et forcément interdisciplinaire d'étudiants et d'étudiantes de l'université Paris Sciences Lettres, la paléographe et historienne des sciences Lisa Lafontaine, le minéralogiste et géochimiste Quentin Bollaert, co-auteur de l'ouvrage « Une santé de fer » qui accompagne l'exposition du même nom au musée de minéralogie de l'école des mines Paris Tech. Nous sommes également en direct avec Didier Nectou, le conservateur de ce musée aussi historique que scientifique, qui recèle tant de merveilles minéralogiques. Autour de la question « Comment garder une santé de fer ?» Bienvenue pour savoir comment faire.
Fer à cheval, fer à souder, faire quelque chose y croit dur comme fer. Faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir, plaisir d'offrir.
Faire, faire, faire.
Ça commence bien autour de la question « Pourquoi une santé de fer ?» Merci à tous les trois d'être en direct avec nous. Bonjour Lisa Lafontaine.
Bonjour.
Bonjour Quentin Bollaert.
Bonjour.
Bonjour Didier Nectou.
Bonjour.
Didier Nectou, vous êtes le conservateur de ce fabuleux musée de minéralogie de l'école des mines Paris Tech, où l'on peut découvrir cette exposition unique en son genre, co-construite par des étudiants, alors il y en a deux ici présents de toutes disciplines, des étudiants en sciences dites dures comme en sciences humaines, autour des liens entre minéraux et santé depuis l'Antiquité. Exposition qui fait aussi l'objet d'un ouvrage superbe paru aux Presses des Mines, Une santé de fer, très joli titre, qui nous renvoie notamment aux sels minéraux dont on le sait, notre corps a besoin. Pourtant, quand on pense aux minéraux, Didier Nectou, ce n'est pas cet aspect-là lié à la santé, à la médecine et à toute l'histoire de l'humanité que l'on pense immédiatement. Comment vous est venue cette idée de co-construire, de reconstruire au fond toute cette histoire commune entre les minéraux et la santé humaine?
Alors, tout d'abord, les minéraux sont partout. Toute activité humaine a besoin de minéraux. On va parler de l'agriculture, on va parler de la santé, on va parler de la construction. Plus naturellement, on va vers la construction. Mm-hmm. Mais en fait, on utilise la terre pour pouvoir avoir des activités humaines. Donc, les minéraux sont partout. Alors, pourquoi pas la santé? Et dans le domaine médical, ils sont là aussi. Alors, cette idée, ce n'est pas moi qui l'ai eue, ce sont des étudiants, comme vous le disiez. Et c'est une double fierté pour moi, parce que dans ce livre que vous allez évoquer, je n'ai fait que la préface. Hein. Et dans cette préface, je me déclare un homme heureux, parce que conservateur du musée, avec une belle exposition faite par des étudiants, mais je suis aussi professeur. Et tout commence par une histoire pédagogique. Ce sont deux étudiantes de l'école des mines qui ont l'idée de monter une exposition au musée de minéralogie. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'autres compétences. Et là, ils vont fédérer. Et c'est cette histoire extraordinaire. Vous avez deux représentants ici, mais ils sont six, c'est ça, à avoir fait cette exposition.
Six étudiants hein, de toute discipline, de sciences exactes comme de sciences humaines. On va commencer, on va remonter le temps, évidemment, hein, et la longue histoire de la santé humaine, mais aussi de toutes les symboliques autour des minéraux. Ça sera avec vous, Lisa Lafontaine, donc. Vous êtes archiviste, paléographe, diplômée de l'École nationale des chartes, historienne des sciences et des techniques. Votre thèse a porté sur le fond photographique du Muséum national d'histoire naturelle. Et vous êtes avec votre confrère, si j'ose dire, Alexandre Courtier, où vous êtes penché notamment au muséum, mais ailleurs aussi, sur tous les récits, tous les documents qui racontent cette histoire commune depuis l'Antiquité entre les minéraux et la santé humaine. Une histoire, au fond, qui n'avait jamais été faite de cette manière-là. Hein.
C'est ça, tout à fait, oui, parce que quand on pense santé et histoire de la médecine, on pense beaucoup plus facilement aux végétaux. au simple. Et en fait, l'ensemble de ces plantes qu'on rassemblait sous forme de pharmacopée antique et puis ensuite moderne, eh bien, sont très représentées en histoire de la médecine. Et on connaît finalement assez peu les usages et l'importance en fait, des minéraux. Dans ces pratiques thérapeutiques qui remontent jusqu'à la préhistoire. Et donc, quand avec Alexandre, on s'est un petit peu penché sur cette histoire, on a découvert à quel point la tâche allait être ardue.
Vous ne vous y attendez pas, ça a été vraiment finalement des surprises.
Oui, ça a été vraiment des surprises parce qu'on s'était dit on va essayer de faire une synthèse en fait, de travaux différents. Sauf que les synthèses, ou en tout cas les ouvrages ou les travaux consacrés à ce sujet n'existaient pas. Pas réellement. Alors, il y a des ouvrages à thème autour, par exemple, on en parlera sûrement, des lapidaires ou ce genre de choses. Mais
des lapidaires.
Des lapidaires qui sont en fait des livres, des sortes de bestiaires pour les minéraux. Donc des sortes de listes et d'inventaires de minéraux qui sont écrits dès l'Antiquité. Qui évoluent dans le temps et qui rassemblent un ensemble de savoirs qui nous paraissent à la fois scientifiques et magiques et symboliques, qui représentent l'ensemble des connaissances qu'on avait autour des minéraux dès l'Antiquité.
Parce qu'on va le voir justement, c'est entre symbolique et scientifique, c'est exactement. Lié, mais vous avez l'esprit très ouvert, hein, tous les étudiants qui avaient travaillé là-dessus, et notamment vous, bien sûr, Quentin Bollard, autour de la question des minéraux et de notre santé. Il y a évidemment de nombreux enjeux sanitaires actuels, hein, des risques induits par certains comme l'amiante, jusqu'à la course aux terres rares, hein, pour ne citer que cela. Ça, c'est votre domaine, donc, Quentin Bollard. Vous êtes doctorant à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, l'IMPMC, à Sorbonne Université. Vous êtes à la fois minéralogiste, cosmochimiste, et... Non, allez, moi aussi quand même. Non, hein.
Minéralogie, c'est déjà.
Minéralogie,
c'est déjà très
ça
bien,
suffit. Déjà, en oui. tout cas, vous êtes allié hein, avec trois autres étudiants. On va quand même citer leurs noms. Doctorant en sciences, en mécanique des fluides, ça c'est Clément Lozéa, c'est ça ?
Clément Loiseau.
Clément Loiseau, j'ai très mal écrit. Clément Lozéa, merci de me corriger. En mécanique des fluides. En génie atomique, Tristan Malville, là c'est bon. Et en géosciences, Hugo Lestrelin.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Et vous êtes concentré, si j'ose dire, Quentin, sur les usages actuels des minéraux au service de la santé, donc en diététique, en orthopédie ou en médecine nucléaire, mais aussi sur tous les enjeux de santé publique, en toxicologie, dans les usages industriels, extraction minière. Les enjeux, les impacts sont considérables. Au fond, c'est du meilleur de la médecine nucléaire jusqu'au pire des scandales sanitaires quand on parle des métaux en santé dans votre domaine.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est intéressé dans ce livre à plusieurs échelles, donc notamment à l'échelle comment le minéral va permettre de soigner donc, des maladies, des maux un peu de la vie quotidienne, tels que des problèmes de gastro-intestinal, des problèmes de type et comment ça va jouer en tant que dans les excipients les principes actifs. Après, on a aussi découvert que les minéraux étaient présents dans des techniques plutôt de pointe, telles que vous l'avez dit, la médecine nucléaire. Donc, on a appris beaucoup de choses. Ça va permettre certains isotopes, donc qui sont radioactifs, vont permettre de cibler des cellules. Qui sont atteints du cancer,
cancéreuses,
afin de les cibler et de les tuer. C'est une technique qui permet de soigner justement
grâce aux minéraux.
C'est extrait des minéraux et après on les transforme. Voilà. Donc c'est
pas dans l'infiniment petit de l'usage des minéraux. Enfin, c'est dans cette partie-là de la science.
Oui, tout à fait. Et donc ça, c'était plutôt pour la partie on voyait que les minéraux pouvaient soigner, mais d'un autre côté, c'est l'aspect plutôt obscur des minéraux. Comme Didier l'a très bien dit tout à l'heure, les minéraux sont partout aujourd'hui, soit dans l'agriculture, que ce soit dans... Donc ça, je pense qu'on en parle de plus en plus, donc dans les téléphones portables, dans les technologies vertes, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Voilà, une extraction minière qui est polluante, parce qu'en fait, les métaux sont contenus dans des minéraux qui peuvent aussi contenir... des éléments toxiques, donc l'arsenic, le plomb, et même des éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium. Et donc forcément, quand on a besoin d'extraire les minéraux pour des métaux en question, on extrait aussi d'autres métaux nocifs.
D'où l'intérêt hein, essentiel aujourd'hui de s'intéresser à ce monde, vous l'avez dit Didier Nicloux, à ce monde minéral qui est partout, qui concerne tout, autour de la question comment avoir une santé de fer. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir ce que c'est qu'un minéral. On a parlé des métaux, on parle des minéraux, il y a aussi des minerais qu'on extrait. Il faut bien faire la différence.
On va parler des roches, on va parler des éléments.
C'est ça.
Alors, les minéraux sont composés d'atomes, comme nous d'ailleurs. Et ces atomes s'assemblent selon une structure. On va donc définir un minéral par sa composition chimique et par le mode d'assemblage des atomes. Le mode d'assemblage des atomes, c'est ce qu'on appelle la cristallographie. Alors, il y a des systèmes cristallins qui gèrent cet assemblage. Et puis, la chimie, eh bien, c'est par famille qu'on va regrouper les minéraux. On aura ainsi des oxydes, des carbonates, des sulfures, des sulfates, etc. Voilà. Alors, à l'intérieur de ça, donc, il y a des atomes. Les atomes sont les éléments. Et quand j'ai un minéral qui est un oxyde de fer, par exemple, puisqu'on parle d'une santé de fer, eh bien, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène et qu'il y a du fer. Cet oxyde de fer est donc un minerai de fer. On va en extraire le fer.
D'accord, ça, voilà. Pour la différence entre minerai et minéraux.
Et les minéraux, en général, sont tout petits, s'assemblent entre eux et forment les roches sur lesquelles nous marchons. Donc, pour extraire ces éléments, il va falloir briser les roches, extraire les minéraux, les torturer un peu par de la température, par de la chimie, par des moyens mécaniques pour pouvoir en extraire l'élément qui nous intéresse.
Qui nous intéresse pour notre santé, autour de la question pourquoi parler d'une santé de fer. Je propose de nous arrêter sur ce qu'on sait d'abord et sur ce qu'on ne sait pas, des liens entre minéraux, sels minéraux aussi, et notre santé, avec plusieurs éclairages et questions croisées de chercheurs. À commencer par la professeure Sonia Garel du Collège de France, qui travaille sur les interactions entre le cerveau et le système immunitaire, à suivre avec les professeurs Olivier Garot et Jean-Denis Tissot, hématologistes et immunologistes, co-auteurs tous les deux d'un ouvrage « Il était une fois le sang », ce sang qui charrie aussi tant de minéraux essentiels pour notre corps comme pour notre cerveau.
Ah ben c'est vrai que c'est une question passionnante et il y a beaucoup de travaux finalement en ce moment qui émergent sur différents minéraux, le fer, le zinc, dans le fonctionnement des cerveaux, du circuit. Donc je ne sais pas s'ils ont des réponses plus particulières et qu'est-ce qu'on sait sur un plan historique sur ces minéraux en particulier.
Il n'y a pas que le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc, qui est si important pour l'immunité, l'or, etc. Donc ça, c'est les aidants. Et puis à côté de ça, on a ces allergies au nickel, ces allergies à d'autres métaux qui sont les non-aidants. Et donc c'est vrai que c'est assez fascinant de voir cette relation que nous pouvons avoir. Alors je ne parle pas du fer, on en a beaucoup parlé dans notre ouvrage sur cette capacité de faire respirer l'hémoglobine pour animer la respiration chez les individus porteurs d'hémoglobine. Mais ces autres métaux sont effectivement fascinants. Oui.
Juste un tout petit complément. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'origine dans la nature et dans l'univers de ces métaux. Fission, fusion nucléaire, beaucoup de fer à l'intérieur de nos planètes. Et finalement, on se rend compte que la vie va dépendre d'éléments qui sont somme toute assez exceptionnels dans la distribution des différents atomes qui composent l'univers. Et donc finalement, ce qui me frappe, c'est qu'on ait eu cette capacité d'utiliser des métaux rares, des métaux un peu plus fréquents, pour que la vie apparaisse. Et la vie dépend de ces métaux.
Qui veut enchaîner, ajouter un complément à ce qui vient d'être dit. Peut-être Quentin Bollaert sur cette... les métaux sont indispensables à la vie, que ce soit à la formation des planètes, à la formation des êtres vivants. On regarde ça, on se dit ce sont des pierres, mais c'est bien plus que des pierres.
Oui, c'est ce qu'on appelle le phénomène de biominéralisation. Donc nous, les êtres humains, sommes composés à la fois d'eau, de sang, mais aussi nous avons des os. Et nos os sont composés d'hydroxyle apatite. Donc c'est un minéral qu'on trouve aussi dans la nature, sauf que là, sous forme d'apatite. Et donc nous, dans nos os, on a aussi des composés hydroxylés, donc c'est OH, de l'eau, dans nos os. On va aussi trouver, par exemple, dans nos oreilles, ce que constitue l'oreille interne, c'est des cristaux de calcite. Afin, ça permet en fait de retrouver l'équilibre. C'est des cristaux de calcite qui en fait flottent, ils vont trouver un certain équilibre.
Donc nous-mêmes, nous sommes des minéraux. Alors je ne sais pas si on avait cette conscience ou cette connaissance-là, Lisa Lafontaine, mais vous dites depuis la préhistoire, finalement, on avait une connaissance à la fois des minéraux et de leur usage tout de même pour notre santé.
Oui, alors évidemment, en parlant de connaissances, on ne peut pas penser en termes de connaissances rationnelles ou scientifiques comme on peut l'interpréter aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr.
Mais les usages empiriques qu'on a pu retrouver, notamment par le biais des restes archéologiques, nous permettent de savoir que certains minéraux qui étaient par exemple présents dans l'argile étaient appliqués sur la peau sous forme de cataplasme à des endroits où on découvrait par exemple des problèmes d'arthrite, ou ce genre de choses, et donc qu'il y avait un lien qui était fait par ces hommes entre l'application d'une matière qui contient des minéraux et la résolution d'un problème de santé. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de connaissance comme on pourrait le penser dans notre définition moderne, mais il y a l'usage de minéraux dans une direction thérapeutique.
Ça, c'est vraiment depuis le début. On y viendra aussi ensuite parce qu'il y a aussi des alchimistes, hein, les ancêtres des chimistes qui rêvaient de transformer le plomb en or. On se rend bien compte qu'il y a aussi toute une symbolique, il y a des croyances, alors avérées ou pas. Il y a aussi la beauté de ces minéraux parce que quand même, Didier, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus. La beauté, simplement la beauté, a dû aussi inspirer depuis tout temps les hommes et les femmes.
Ah, sans doute. Alors, sans remonter à la préhistoire, il suffit d'aller au musée de minéralogie actuellement pour s'en rendre compte, puisqu'on a des merveilles, avec même parfois l'étonnement, parce qu'on a des objets qui font penser à des créations humaines.
Par exemple, vous nous décririez
Je pourrais vous décrire, c'est tout simple, les cubes de pyrite. C'est un sulfure de fer,
oui.
On y revient.
Et voilà, la sulfure de fer.
Qui est aussi qualifié d'or des fous, parce qu'il a il a cette teinte et cet éclat qui ressemble à l'or, mais ce n'est pas de l'or, c'est beaucoup plus courant, mais forme des petits cubes. Système cubique, hein, on parlait de composition et de structure. Et cet assemblage de cubes est parfois si parfait qu'on doute du fait que ça soit naturel. Et c'est une question qui revient systématiquement sur un certain nombre d'échantillons. On a aussi une Vénus en argile qui fait penser à un Botero, une Vénus paléolithique qui n'est ni plus ni moins que de l'argile qui a été sculptée par la nature et qui a évidemment une forme évocatrice. Donc oui, bien sûr, les minéraux fascinent, ils fascinent de tout temps. Ils ont d'autres enjeux, des enjeux de pouvoir aussi.
Mais absolument des gros enjeux de pouvoir parce que là, on a parlé du fer, mais quand on parle de ces minéraux, il y a l'or. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme minéraux que vous avez retrouvés dans les textes, les à la fontaine, qui ont servi, qui ont été utilisés comme remède, pour leur vertu thérapeutique
Par exemple, on parlait de la beauté et de la symbolique. On va utiliser des minéraux comme l'hématite, qui est un minéral rouge, et qui va être utilisé par référence à cette couleur pour soigner des maladies du sang, par exemple. Donc en fait, on va retrouver cette fascination pour la beauté des minéraux. On la retrouve sous forme de ce qu'on appelle la théorie des signatures. C'est-à-dire que l'aspect que nous, on va seulement, ou en tout cas déjà trouver très esthétique, cet aspect esthétique, il est à prendre en compte dans la manière dont les anciens, quelque part, utilisaient médicalement ces minéraux. Voilà, donc après, il y a des minéraux comme le blanc de céruse.
Le blanc de céruse, alors c'est blanc.
C'est ça, voilà, exactement. on utilise aussi la pyrite. Il y a tout un ensemble de minéraux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que d'une culture à l'autre, d'un ensemble de pratiques médicales à l'autre, il peut y avoir certains minéraux que l'on va retrouver sous des noms différents.
Pour les mêmes propriétés, finalement.
Pour des propriétés qu'on peut retrouver à peu près semblables. Parce qu'il faut savoir que les textes, évidemment, entre un papyrus égyptien et une tablette en cunéiforme, et évidemment, c'est compliqué
de savoir exactement les mêmes noms. Voilà, et de quel minéral on parle.
Mais on peut retrouver comme ça, notamment par le biais de la linguistique, beaucoup de linguistes qui ont pu s'intéresser à la question, qui ont pu remonter. C'est le cas, par exemple, de la stibnite, anciennement stibine, dont on retrouve des formes alors linguistiquement différentes. En Chine traditionnelle, on retrouve une forme aussi arabe actuelle que l'on retrouve dans des papyrus.
Dans des papyrus égyptiens, la stibnite, vous dites, c'est comment?
C'est ça, c'est jaune.
C'est jaune. Autour de...
Sulfure d'antimoine.
Sulfure d'antimoine, voilà, l'antimoine qu'on retrouvait déjà donc dans les papyrus. Autour de la question des minéraux et de notre santé aussi bien physique, psychique que spirituelle, vous avez choisi, Yenektou, d'écouter une guérisseuse, visionnaire et mystique, Hildegarde Bingen, nonne, médecin, botaniste et musicienne dont les livres de remèdes incluent de nombreux minéraux, extraits d'un de ses chants de l'extase, carrément composé vers 1100 pour élever l'âme et l'esprit, Hildegarde Bingen sur RFI. Extrait d'un chant de l'extase d'Hildegarde Bingen sur RFI. Autour de la question des minéraux et de notre santé, cette nonne, guérisseuse et visionnaire, utilisait déjà les métaux, elle les consignait même dans ses livres de remèdes que vous avez compulsés, entre autres, hein, Lisa Lafontaine, et redécouvert pour cet ouvrage et cette exposition au Musée de minéralogie de l'École des Mines, une santé de fer.
Oui, tout à fait. Donc, c'est les types d'ouvrages dont on parlait tout à l'heure, les lapidaires, qui contiennent un ensemble de symboliques très fortes, parce qu'il faut savoir que là encore il faut essayer de prendre du recul avec la notion de science contemporaine et savoir que les connaissances qu'on avait qui étaient réelles hein, dans ces lapidaires ont consigné des informations comme le poids ou la dureté, par exemple, d'un minéral, eh bien, elles étaient systématiquement incluses dans un ensemble de croyances religieuses. Et c'est beaucoup le cas avec Hildegarde von Bingen, donc, qui était nonne et qui avait un certain nombre de visions qui a intégré une symbolique liée aux couleurs, aux matières, et toujours en rapport avec l'explication divine du monde.
C'est ça, et avec une approche mystique, on pense évidemment c'est aussi ça. Aux alchimistes hein, qui rêvaient de transformer le plomb en or. On peut aussi revenir, puisque vous élargissez vraiment à toutes les cultures hein, dans le monde entier qui ont utilisé les minéraux, qui leur ont prêté des vertus qu'ils ont, hein, thérapeutiques, mais aussi des vertus symboliques. On peut revenir aussi sur le jade, hein, sur son importance en Chine. Le jade, je ne savais pas, ça s'appelle aussi néphrite, c'est ça, et pour cause. Peut-être que c'est Quentin Bollard qui va nous en parler.
Je peux essayer. Il me semble qu'il y a plusieurs types de jade et néphrite est l'un de ces types.
D'accord. Néphrite parce qu'il soulageait les maux des reins.
Les maux des reins.
C'est ça. Hein,
c'est ça.
Et en Chine, ailleurs aussi, il y a d'autres pierres qui, comme ça, ont effectivement des vertus thérapeutiques, mais du coup aussi des vertus symboliques, j'imagine, Didier Nectou.
On parlait des métaux tout à l'heure. Mmh. Donc, beaucoup de métaux ont des vertus antiseptiques.
Bien sûr.
Alors, on ne l'a pas forcément prononcé comme ça. Même au départ, ils étaient utilisés pour se farder, pour se maquiller. Et on s'est aperçu qu'il y avait cette fonction qui était liée à ces métaux, avec une ambivalence
antiseptique.
Et qui est en même temps toxique.
Ah, c'est hein, ça. C'est ce qui soigne, c'est aussi Paracels. Hein, tout est question de dose.
Absolument.
Ce qui soigne peut aussi...
Absolument. On pourra parler comme ça. On parlait d'antimoine, on peut parler de zinc, on peut parler de cuivre... On peut parler d'arsenic, L'arsenic soigne aussi, même si c'est un puissant poison. Donc, il y a toujours cette ambivalence liée à la dose, effectivement.
D'où l'intérêt de noter le poids exactement. Enfin, voilà, d'où l'intérêt d'un savoir véritablement précis autour de la question comment garder une santé de fer, autour de la question des minéraux, des métaux et de la santé. Je vous propose un autre éclairage vu d'ailleurs, vu d'Amazonie et de l'Amérique précolombienne. C'est celui de l'archéologue Stéphane Rostin, qui était récemment notre invité, spécialiste des civilisation amazonienne, qui a une question pour vous.
Je pourrais avoir une question un peu vicieuse, mais sur le fait qu'on utilise en effet les minéraux en Amazonie, mais c'est le chaman donc qui les utilise, et ce sont ces pierres chamaniques qu'il a en main, qui sont souvent des cristaux de quartz, et qui ne se servent pas non pour administrer une cure physique, mais bien pour être en contact avec les esprits. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs ?
Lisa Lafontaine, je pense que c'est à vous que s'adresse cette question.
Oui, alors je pense qu'il y a forcément d'autres civilisations dans lesquelles on retrouve ça. Et en fait, c'est une fonction, donc, dans le cas des populations amazoniennes, c'est pour rentrer en contact avec une divinité. Mm-hmm. Mais on peut avoir aussi d'autres utilisations un petit peu magiques comme ça. C'est une utilisation apotropaïque.
Apotropaïque.
C'est ça. En fait, c'est...
Là, on ne comprend pas ce que vous nous expliquez.
C'est ça. C'est l'usage de pierres afin de rejeter le mauvais sort, en fait. Mm-hmm. Contre une malédiction, par exemple. Donc, en fait, il y a des usages qui vont être liés aux esprits ou à un ensemble de croyances divines. Mais en fait, on ne peut pas vraiment séparer avant le XVIe siècle, et même, on peut dire, avant le XIXe siècle, totalement ce côté spirituel et la guérison corporelle. Parce qu'il y a des concordances, en fait. Et on le voit encore avec Paracels, qui pourtant, comme on le disait, ce médecin suisse du XVIe siècle, a commencé à mettre en place les bases de notre chimie moderne. Eh bien, lui pensait profondément qu'il y avait une sorte d'analogie entre le microcosme humain et le macrocosme. Et donc, l'ensemble du macrocosme s'appuyait sur des échanges qu'il pensait chimiques ou alchimiques, et il fallait comprendre ces échanges pour comprendre le corps humain, la maladie et donc le processus de guérison. Donc finalement, on l'a un petit peu partout dans toutes les civilisations et encore jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de la lithothérapie.
Absolument, dans le cadre de la lithothérapie qui fonctionne aussi, et je trouve d'ailleurs que c'est une des approches très intéressantes de cet ouvrage et de votre collaboration à tous, c'est que il n'y a aucun mépris et il y a une grande ouverture d'esprit pour justement, selon l'époque, selon les lieux, selon l'usage qu'on en fait, comprendre effectivement à quel point tout ça est important, relié, et comment tout ça pouvait être interdépendant, qu'une guérison pouvait survenir. Et la lithothérapie, vous la traitez d'une jolie manière aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui continuent à penser que, en tout cas des pierres, si on pense que ça fait du bien, vous parlez de l'effet placebo, on n'en est pas loin non plus, si on pense que ça fait du bien, ça peut faire du bien.
Il suffit de croire. Et là, il n'y a plus de discussion scientifique. Donc, le scientifique s'efface et respecte la croyance. Voilà. Chacun peut croire ce qu'il veut. Après, quand il faut expliquer les mécanismes, alors là, on revient trouver le scientifique et on essaye de démonter les relations entre les atomes, entre les molécules et le vivant. Et là, c'est la médecine, bien sûr.
C'est ça, c'est la médecine. Et puis, c'est là qu'on vient vous voir, Quentin Bollaert. Et puis, vos camarades, étudiants qui ont travaillé avec vous là-dessus, sur cette santé de fer. Alors, j'ai notamment appris, on n'est pas dans quelque chose de tellement étonnant, mais c'est que le talc qu'on mettait sur les fesses des bébés, ça aussi, c'est un minéral, évidemment. Mais oui, sauf que j'y avais pas pensé.
Oui, on connaît tous le talc, on l'a déjà tous expérimenté finalement. Le talc, en fait, c'est un phyllosilicate, c'est une structure à l'échelle atomique en forme de feuillet, ce qui va lui conférer des forts pouvoirs absorbants et adsorbants sur la surface de ces feuillets. Et donc, ce qui permet justement d'assécher la peau des bébés lorsqu'on change leur couche. Mais aussi, donc, c'est ce qu'on montre dans le livre, on va trouver le talc en tant qu'excipient de beaucoup de médicaments. Par exemple, dans le cas de l'aspirine, qu'on a tendance...
C'est ça.
On prend tous de l'aspirine de temps en temps lorsqu'on a mal à la tête. Ça permet, en fait, l'aspirine a un fort pouvoir irritant au niveau de l'œsophage. Et donc, il faut protéger l'œsophage de ce pouvoir
irritant. Pendant que l'aspirine passe, pendant que le comprimé passe.
Donc, on a le talc qui se dissout lorsque le comprimé, le médicament passe. Et voilà, le principe actif va être libéré au niveau de l'estomac et des intestins. Voilà.
Vous le disiez, hein, Didier Nectou, les minéraux sont partout, mais ils sont partout à l'extérieur, à l'intérieur de notre corps. On s'en sert sans même s'en rendre compte. C'est ça aussi qu'on découvre et qui est assez, assez surprenant, je dois dire.
Et les enfants prennent du fluor, il faut manger mais du calcium, il faut manger du fer, du magnésium. Parce qu'effectivement, ces éléments sont présents en nous, sont nécessaires à notre équilibre. On est succession d'équilibres chimiques, il faut faire des apports. Et les minéraux peuvent contribuer à apporter ces éléments.
Autour de la question d'une santé de fer, des minéraux et de notre santé, oui, une santé de fer, c'est le titre de votre ouvrage collectif superbe. Et cette exposition aussi qui est actuellement au musée de minéralogie des mines, vous n'évitez pas non plus les questions qui fâchent, il y en a beaucoup, on l'a dit déjà, concernant l'aspect toxique de ces minéraux sur notre santé. Je propose, vous avez évoqué l'arsenic tout à l'heure, Didier, je propose de nous arrêter sur l'image d'Ötzi, vous savez, cet homme momifié naturellement dont le corps congelé, donc quasiment intact, a été découvert par hasard dans les Alpes italiennes, à la frontière de l'Autriche, en 1991, suite à la fonte rapide du glacier qu'il avait enseveli. Ötzi est daté vers 2600 avant Jésus-Christ. Sa momie a été analysée, a révélé de nombreux secrets, et notamment en lien avec les minéraux dont son corps garde la trace. C'est l'éclairage de l'archéologue de l'INRAP Muriel Gandelin qui était récemment notre invitée.
Ötzi a vécu au Chalcolithique, donc ce qu'on appelle l'âge du cuivre, et il avait dans les poumons des résidus d'arsenic qui sont liés à la métallurgie du cuivre, ce qui a amené certains chercheurs à proposer le fait que Ötzi était un métallurgiste.
Ötzi était un métallurgique. Étonnant tout de même, cette métallurgiste, cet arsenic donc dans les poumons d'Ötzi qui prouverait que, à l'âge du cuivre, il a travaillé le cuivre et qu'il s'est peut-être un peu empoisonné. Qu'en
pensez-vous ? Absolument, c'est toute l'ambivalence des minéraux. Hein. Les minéraux sont utiles, on en a besoin. Et en même temps, effectivement, si consommés en trop grande quantité, ils peuvent avoir des effets néfastes. Hein. C'est toute l'ambivalence de ces minéraux. Il n'y a pas de mal ou de bien là-dedans. Il y a une utilisation. L'homme s'approprie les propriétés de ces minéraux, les transforme, arrive à fabriquer des objets utiles qui lui sont nécessaires. Mais en même temps, il emprunte à la nature, c'est un euphémisme. Hein, mm-hmm. Il crée des trous et pour pouvoir extraire ces éléments, il emploie des procédés chimiques qui peuvent effectivement produire des pollutions.
Et vous avez étudié toutes ces questions-là, ces impacts, notamment sur l'environnement, mais aussi la toxicité des matériaux. Ce sont des sciences à part entière, Quentin Bollard.
Oui, ce sont des sciences à part entière, ce qu'on appelle le domaine de la toxicologie. Donc, par exemple, on a parlé de Paracels, qui a notamment la célèbre maxime « Tout est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Voilà, ça vient de Paracels. Donc, un des moyens d'étudier la toxicité d'un métal issus de ces minéraux, c'est notamment de regarder la relation dose à effet. Donc on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a une très faible dose, une ingestion à très faible dose, les effets vont être très très faibles. Mais lorsqu'on augmente cette dose, on va avoir une augmentation linéaire de l'effet toxique de cet élément jusqu'à atteindre un plafond où là, l'effet est maximal. Et bien sûr, cette relation dose à effet est différente selon tous les matériaux dont il est question.
Et selon, j'imagine aussi, un peu pour d'autres perturbateurs, selon la variété, enfin la diversité, quand on les met ensemble, ils sont peut-être plus toxiques, enfin le mélange.
Donc ça, c'est le fameux effet cocktail, on connaît, c'est très peu étudié. C'est justement très bien étudié aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas du tout les impacts des effets cocktail.
Travailler là-dessus.
Ça. Et ça dépend aussi de la voie d'entrée du contaminant en question, parce que ça peut très bien entrer par la peau, ça peut entrer par les voies pulmonaires, ça peut entrer par l'ingestion dans le corps humain. Et donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte, c'est pas trivial.
C'est ça, non, c'est pas trivial du tout. Et on se rend compte aussi que la science, enfin la médecine est devenue chimique, notamment grâce à toutes ces études des minéraux, que ça fait avancer la science et que plus la science avance, et plus on peut comprendre un peu mieux le fonctionnement, donc on l'a dit, toujours ambivalent de tous ces minéraux et aussi les effets sur l'environnement de l'extraction que l'on fait de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette question-là.
Ah oui, l'extraction aujourd'hui, elle est nécessaire. On extrait de plus en plus. Donc là, pour vous donner un chiffre un peu hallucinant, depuis 2015, chaque année, on extrait 70 milliards de tonnes de matériaux de la Terre.
Ah oui, donc, c'est fou.
Moi, je n'arrive pas à concevoir, représenter ça. C'est trop grand comme chiffre. Voilà, donc ça c'est lié d'une part à l'extraction de matières premières qu'on dit structurales, donc comme le cuivre, l'aluminium, le fer. Donc ça va permettre de. C'est des matières de base qui vont permettre de construire les infrastructures, les réseaux de télécommunications, ce genre de choses. Et puis après, maintenant, dont on parle de plus en plus, c'est l'extraction des métaux rares. Donc une fois que ces matières premières dites structurales, la demande s'est stabilisée, on va avoir une transition vers ces métaux rares. Qui, là, on, voilà, une grande diversité, on en compte, je ne sais pas, 50, 40 métaux rares.
Et on en a besoin de plus en plus hein, dans nos sociétés numériques, dans nos petits bijoux numériques, mais pas seulement, hein, dans nos outils numériques, mais pas seulement, autour de cette question donc, des métaux rares, des métaux lourds, des métaux critiques. Je propose un petit extrait de l'excellente chronique des matières premières diffusée sur RFI. On va s'arrêter sur celle du 4 septembre 2020, signée Claire Fage, sur l'Alliance européenne pour les matériaux critiques.
De 27 il y a 3 ans, ils sont passés à 30 en 2020. Il s'agit des matériaux considérés comme critiques par la Commission européenne, soit parce que leur offre est insuffisante, soit parce qu'elle est concentrée entre les mains de très peu de fournisseurs. La liste va de l'antimoine et du borate, que l'Europe importe majoritairement de Turquie, au magnésium, aux terres rares et au tungstène, extrait ou transformé à plus de 90% en Chine, en passant par le cobalt qui provient à 68% de République démocratique du Congo, ou les platinoïdes importés à plus de 70% d'Afrique du Sud. 4 autres matières premières font leur apparition. La bauxite, l'ingrédient de l'aluminium, provient désormais à 64% de Guinée. Le titane, dont la Chine livre la moitié des besoins à l'Europe. Le strontium, fourni par une seule entreprise en Espagne. Enfin, et ce n'est pas des moindres, le lithium. L'Europe dépend à 78% du Chili. Le lithium, indispensable aux batteries électriques. Il en faudra des quantités 60 fois plus importantes si l'Europe veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, de même qu'il faudra 15 fois plus de cobalt ou de graphite pour accomplir la transition verte et numérique, chère à la Commission européenne.
Quentin Bollard, je vais vous faire réagir hein, sur cette chronique qui date de 2020, mais on a de plus en plus besoin de cobalt, de graphite, de titane, de bauxite, et j'en passe.
Oui, tout à fait. Bah, on n'a pas cité le métal dont il est question dans ma thèse, donc qui est le niobium.
Alors, le niobium, qu'est-ce que c'est que le niobium?
C'est pourtant c'est un exemple très, très frappant, très, très illustrant pour illustrer cette notion de métal rare et de métal critique, puisque le niobium, on le trouve à 90%, sa production provient du Brésil, non, uniquement deux mines. Donc là, la tension géopolitique qui en découle, franchement... Il y a une très très grande pression.
Et à quoi il sert ce, comment vous dites ?
Le niobium.
Le niobium. À quoi sert le niobium ?
Alors, à la grande majorité du niobium, c'est dans la production d'acier, donc ultra résistant, notamment dans les matériaux de construction, des immeubles, des ponts, des trains, des carrosseries de voitures. Et puis on veut aussi avoir, donc ça c'est à 90%, et puis les 10 autres pourcents, c'est des productions, c'est une utilisation qui émerge de plus en plus, notamment dans la catalyse. On va avoir des batteries ultra performantes qui vont se recharger en quelques secondes pour faire fonctionner une voiture électrique.
Mm-hmm. Donc on va en avoir de plus en plus besoin.
C'est ça.
Tout comme le lithium. Alors le lithium, là, c'est quand même aussi un drôle de minéral parce qu'on s'en sert dans nos téléphones portables. C'est aussi un anxiolytique puissant, le
Absolument.
Lithium, Didier Nectou.
Absolument. Oui, tout à fait. Qu'on va trouver dans les sels, mais qu'on va trouver également dans un minéral qu'on appelle le spodumène. Et il y en aurait pas mal en France.
Du lithium.
D'accord. Alors, voyez que parler des minéraux, parler des éléments, c'est parler de toutes nos questions de société d'aujourd'hui. On a
mais
parlé de
ça,
santé,
hein.
Mais on parle aussi du développement, de géopolitique, d'économie. C'est aussi à ça que sert ce musée de minéralogie avec ses minéraux, qui cabinet de curiosité, objet, qui nous permet de refaire le monde. On va se poser toutes les grandes questions d'aujourd'hui. Et déjà faire le lien entre le minéral et l'objet que l'on a à côté de nous, qu'il soit un médicament, qu'il soit un téléphone portable, qu'il soit une voiture, c'est déjà très, très important parce que je pense qu'on a un peu perdu cette idée-là.
Complètement, c'est très important et d'autant plus important qu'ils sont souvent au sud, hein, tous ces minéraux. Là, vous avez cité l'exemple du lithium, il se répète en France, mais ils sont souvent quand même au sud. Parfois, certains pays du sud disent que c'est une sorte de malédiction hein, d'avoir de tels minéraux parce que justement, ils n'en profitent pas, mais que ça devient le lieu de tous les enjeux. Donc effectivement, ça pose toutes les questions sanitaires, environnementales, sociales, économiques, économique, historique, médicale, philosophique, symbolique, religieuse. Oui. On ne s'arrête pas hein, avec les minéraux.
Ils ne sont pas toujours au sud, ils sont partout, les minéraux.
Vous avez raison.
Mais on a choisi à certains endroits de ne plus les exploiter parce que source effectivement de pollution.
D'accord, donc on préfère les exploiter ailleurs plutôt que chez nous. Ah, ça aussi, ça peut faire réfléchir.
Absolument.
On continue donc de s'interroger sur l'impact de tous ces minéraux dans nos vies humaines, toutes leurs facettes, tous leurs aspects, sans oublier même leur aspect sonore et musical, avec cet extrait de Lithophonix, musique des pierres, composée par Fabrice Bonnier sur RFI. Le son des pierres, Lithophonix, revisité par Fabrice Bonny sur RFI, histoire de réveiller notre imaginaire autour de la question jusqu'où nous entraîneront les minéraux. Nous sommes en compagnie de Didier Nectou, conservateur du musée de minéralogie de l'École des Mines, de l'archiviste et historienne des sciences Lisa Lafontaine et du minéralogiste Quentin Bollard qui, avec d'autres étudiants de sciences et d'humanité à Paris Sciences Lettres, ont coécrit cet ouvrage « Une santé de fer, minéraux et santé de l'Antiquité à nos jours ». Je vous propose un dernier éclairage, allez, on va dire intergalactique, interplanétaire sur les minéraux. C'est celui de l'astrophysicien Stéphane Masvet qui est à l'origine du programme de recherche « Origines et conditions de la vie », un programme de recherche lui aussi interdisciplinaire qui fait appel à l'imaginaire. Stéphane Masvet enseigne aussi aux étudiants en cinéma de la FEMIS, alors pour les aider à imaginer, à inventer au plus près de la réalité scientifique d'autres univers, d'autres mondes que les nôtres. Écoutez son éclairage qui devrait vous réjouir, Didier.
Alors moi, quand je fais ma classe à la FEMIS pour les exoplanètes, pour imaginer le sol des exoplanètes, on va au musée de minéralogie des mines. Parce que quand on parlait de planètes, on dit qu'il y a une grande diversité. Dans cette grande diversité de densité, on voit que de faibles variations de la densité vont donner des sols probablement très différents. Et donc d'aller dans un musée de minéralogie, puisque les minéraux, c'est souvent des impuretés que l'on voit. Alors des fois, il y en a en très petites fractions sur Terre, mais c'est assez facile d'imaginer qu'une planète qui a eu un processus de formation un peu différent ou qui est un peu plus dense, on va retrouver plus de métaux en surface et une minéralogie qui est différente. Et donc, c'est visuellement, parce que c'est quand même fantastique d'aller dans un musée de minéralogie. Moi, en plus, j'ai une formation de physicien du solide, donc je suis en plus très attiré par ça. Ça permet d'imaginer assez facilement des mondes nouveaux tout en respectant les propriétés physiques et le comportement de la matière.
Vous voulez réagir, Didier Nectou, c'est un joli hommage à votre musée de minéralogie qui développerait tous les imaginaires, mais en lien avec de la vraie science.
Une jolie page de pub. Mais oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on parle d'aller voir des astéroïdes, d'aller sur Mars, d'aller sur la Lune pour trouver des matières premières. Alors, c'est encore très difficile techniquement et économiquement à démontrer, mais il n'empêche qu'on y pense très sérieusement. Donc, outils. Alors, on a regardé vers le passé, l'histoire de la Terre, l'histoire des hommes, et on peut regarder vers le futur parce que les minéraux, évidemment, seront toujours nécessaires et il faudra bien gérer toutes ces problématiques de pollution, de danger et en même temps la merveilleuse histoire de la technologie et du progrès.
C'est ça, hein, dans l'ambiguïté, hein, notre ambiguïté, nos ambiguïtés et celle des minéraux, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. J'ai envie de vous demander, Quentin Bollaert et Elisa Lafontaine, peut-être Quentin d'abord, qu'est-ce que vous avez retenu, si j'ose dire, de ce travail, très joli travail collectif, interdisciplinaire? Je rappelle, je ne savais pas moi-même que vous avez travaillé tous ensemble, donc tous ces étudiants en sciences dures, en sciences humaines, histoire, physique, etc., sur cette exposition. Et qu'ensuite, vous avez, entre guillemets, profité du confinement pour faire cet ouvrage magnifique, Une santé de fer. Mais qu'est-ce que vous avez retenu, alors, de ce travail collectif et puis de tout ce travail sur les minéraux? Vous aviez fait votre thèse là-dessus aussi, d'ailleurs.
Déjà, d'un point de vue scientifique, ce qui me paraît important, ça se tient finalement en trois mots. Donc, c'est la règle des trois R. Donc, le premier R, c'est pour recycler. Le deuxième mot, c'est réhabiliter. Et le troisième mot avec le R, c'est
recycler, réhabiliter
et réutiliser. Voilà, pardon.
Et réutiliser.
j'allais dire réduire, mais justement, je voulais dire que réduire, c'était à mon avis le quatrième mot qui commence par un R à ajouter à cette liste. Voilà, donc c'est un peu le message principal afin de justement de limiter les impacts sanitaires de ces métaux.
C'est ça, de nous faire prendre conscience finalement de l'importance des minéraux, mais aussi de l'importance de tout ce qu'on en fait et de la manière dont on en fait. Comme vous le disiez, déjà se rendre compte, déjà c'est pas mal, Lisa Lafontaine. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Alors vous, côté historienne, la médecine et des sciences.
Alors d'un point de vue scientifique, mais d'amateur d'histoire, c'est plutôt le fait que maintenant, quand... je me balade dans un musée de minéralogie ou dans une exposition. Quand je vois une pierre, je sais que non seulement... maintenant, j'ai quelques petites bases scientifiques grâce à ce travail, mais je sais aussi qu'il y a une histoire et que ces pierres... emmène avec elle et amène avec elle pour le spectateur qui ouvre un peu l'œil et l'oreille un ensemble d'histoires, de pratiques, de symboliques, de magie, de religion et de travaux de divers scientifiques. Et je pense que c'est ça, c'est ce poids d'histoire qu'il y a dans un minéral qui est intéressant. Et je pense que finalement, pour nous tous, ce qui a été le plus important, ça a été la complémentarité de nos directions, puisqu'on vient de mondes si différents. Et ça a été extrêmement intéressant de voir des objets avec d'autres yeux que les nôtres.
Et puis du coup, vous nous permettez de regarder ces pierres-là et même celles qu'on peut voir dans la rue, sous nos pieds, sous terre et sous toutes les terres, d'une autre manière. Merci beaucoup. Eh ben, espérons que ça nous donnera une santé de fer, pour reprendre le titre de cet ouvrage. Donc vraiment un nul autre pareil, d'une grande beauté, très intéressant et simple aussi, avec plein d'encadrés pour comprendre plus. Édité par les Presses des Mines. Donc ça s'intitule « Une santé de fer, minéraux et santé de l'Antiquité à nos jours ». Signalons bien sûr l'exposition au musée de minéralogie de l'École des Mines, à ne pas rater si vous passez par Paris, chers amis auditeurs. Et puis aussi un ouvrage que vous venez de publier pour les plus jeunes, mais enfin les plus grands comme moi, ils jetteront un œil aussi, « Passion minéraux » Didier Nectou aux éditions Nathan. Ben, merci à tous les trois, merci Lisa, merci Quentin, merci Didier.
Merci.
À bientôt. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter, à vous abonner, bien sûr, à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et auditrices, pour continuer de démêler le vrai du faux et surtout pour tenter de comprendre pourquoi nos biais de l'esprit nous poussent souvent à prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire des idées fausses et des rumeurs pour argent comptant. Nous serons en compagnie du youtubeur Thomas Durand autour de la question « Est-il possible ?» de se vacciner contre les balivernes. Tiens donc, et comment développer notre esprit critique? À demain, chers amis auditeurs à l'esprit libre et ouvert. Merci pour votre fidélité, surtout restez curieux. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Priorité santé, Igor Strauss.